Factory offre en plus d'autonomie électrique pour vos déplacements et une puissance accrue. C'est le seul à vous offrir 7 places de série, la recharge rapide et la meilleure garantie de 10 ans ou 160 000 km. Profitez des subventions gouvernementales et de nos unités disponibles immédiatement. L'avenir est branché. Passez chez Sainte-Foy Mitsubishi ou Québec Mitsubishi.
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi. Et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le pit stop avec Denis Gravel, 7h55. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iacarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
L'exceptionnel Victor Henriquez, ce chroniqueur politique, est avec nous ce soir dans le podcast de Marceau le soir. Comment allez-vous, Monsieur Henriquez?
Ça va, Yannick, toi?
C'est toujours un plaisir. Beaucoup d'actions dans le monde politique dans les derniers mois, les dernières semaines. On dirait que ça n'arrête plus. Il y a tellement de sujets à jaser. Trump qui fait des siennes. L'assassinat sur la tentative d'assassinat sur Trump en fin de semaine. Mark Carney qui bouge à gauche et à droite, qui fait la gueule un peu à Donald Trump dans l'entente de la CEUM. Christine Fréchette qui s'en va à Washington rencontrer les responsables de la CEUM pour bien représenter le Québec. La baisse d'impôts aujourd'hui. Les fameuses bottes à quoi? C'est 18 000 piastres, là. Ça finit plus. Il y a toujours des choses
juste...
à genre.
Et on est juste mercredi.
Ouais. Wow. Mais tu sais quoi, c'est le fun parce que cet été, on va se chercher des sujets, mon ami, t'auras pas idée.
C'est drôle que tu dis ça parce que ça fait 2-3 ans que j'observe le même phénomène. On pense tous que l'été va être tranquille. Puis tu vois, je vais te prédire quelque chose. Oh. Je m'attends à ce que l'été soit rock'n'roll à partir du mois de juillet. Moi, je pense que les gens, s'ils prennent des vacances, qu'ils viennent, puis le 1er juillet, ça va. Après ça, je pense que ça va aller vite, Yannick, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à commenter. Tu sais, 5 partis politiques qui sont dans une position de fun, c'est 750 candidats. C'est beaucoup de candidats annoncés, c'est beaucoup de nouvelles au milieu. C'est Donald Trump et le 4 juillet, les 250 ans des États-Unis. En veux-tu, en v'là. Alors, pense pas à avoir un été trop relax, Yannick. D'après moi, tu vas pas t'ennuyer non plus.
Ben, tant qu'il y a des choses à jaser, c'est le fun. Pas toujours positif, mais quand c'est positif, on prend la peine d'en jaser. Commençons par la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui était de passage à Washington dans les derniers jours. Est-ce que, selon toi, c'était un voyage pour dorer un peu son blason à Christine Fréchette, de montrer aux Québécois que Christine Fréchette était capable de faire valoir les Québécois à l'étranger?
J'aime beaucoup la chorégraphie de Christine Fréchette depuis qu'elle est devenue première ministre. Puis il y a eu des articles qui nous ont montré que tout ça est organisé et coordonné. Puis pourquoi c'est coordonné? C'est parce que, justement, on veut, du côté de Mme Fréchette, montrer que, même si c'est le même gouvernement, on est différent. Puis un des éléments de différence, c'est ce désir d'aller faire de la diplomatie à Washington. François Legault est allé une fois avec d'autres premiers ministres. Devait y aller seul, n'y est jamais finalement allé seul à cause de toutes les circonstances qu'on connaît. Et là, Mme Fréchette, elle s'en va là-bas. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'elle va aller en Europe. Pourquoi? Parce qu'elle veut montrer sa capacité à intervenir, à être capable justement d'avoir de l'influence. Mais elle le fait aussi dans un contexte global, Yannick. Hein, elle est allée à Montréal, à Québec, à Ottawa, à Washington. Donc là, on est rendu à 4 pôles d'influence importants pour une première ministre au Québec. Maintenant, est-ce que le prochain soit Paris? On va être rendu avec les 5. Et ensuite, on verra qu'est-ce qui s'ajoute. Mais on essaie de raconter une histoire ici aux Québécois. L'histoire qu'on essaie de raconter, c'est d'une première ministre qui amène des solutions, qui règle des problèmes, qui est prête à intervenir dans les dossiers. Et ça, bravo, parce que je trouve que ça fait du sens dans ce que Mme Fréchette essaie.
Quand on tente de faire connaître une personne comme Christine Fréchette qui devient première ministre, on me dit que le cahier de jeu est déjà fait pour les 100 premiers jours. Donc, à chaque jour, elle doit faire quelque chose, faire des annonces, patati et patata. Est-ce que c'est bien complexe organiser ce genre d'agenda-là pour dire à la population, ben voyez, la personne qui a été mise au pouvoir, c'est une personne qui peut être là pour un prochain mandat, qui sait, de 4 ans aux prochaines élections. Est-ce que c'est complexe en tant que faiseur d'image?
C'est complexe parce que ça ne joue pas tout seul. Hein. La première chose, c'est que oui, on peut vouloir beaucoup de choses, mais je vais te donner un exemple sur la rencontre avec M. Greer, qui est le négociateur américain au commerce. Ben, cette rencontre-là, elle se planifie depuis bien longtemps. Le délégué du Québec à Washington, en passant, est un ancien membre du cabinet de François Legault. Donc, on a pu discuter avec lui, dire ben, on aimerait organiser ça. Mais c'est jamais sûr jusqu'à la dernière seconde. Et ça peut toujours être annulé. Et là, quand c'est annulé, ben, ça tombe un peu, cette espèce de narratif-là. Donc, ce qui est compliqué, c'est que oui, d'abord, il faut que tu définisses la bonne séquence. Mme Fréchette, elle l'a bien faite. Hein? Québec, Montréal, Ottawa, on s'éloigne de plus en plus. Donc ça, là-dessus, bravo. Et ensuite, il faut que les autres acteurs soient au même endroit que toi. Il faut qu'ils veuillent discuter de ça. Il faut qu'ils veuillent avoir le même ton. Donc, tu sais, c'est un travail aussi d'équipe de convaincre les acteurs de dire, ben, tu sais, si tu nous reçois, par exemple, Mark Carney, si tu nous reçois dans ton bureau, ben, on va pouvoir prendre une photo ensemble. Ça va être bon pour toi, ça va être bon pour nous. Donc, tu sais, il y a tout ça à négocier, à discuter. Et il faut ensuite que la séquence fasse du sens. Puis la séquence, il faut qu'elle commence rapidement. Donc, tu vois ici un beau travail de transition entre le cabinet de M. Legault et le cabinet de Mme Fréchette. Ce n'est pas hasardeux. L'équipe de Mme Fréchette n'est pas arrivée le lundi matin au bureau et a dit « on va mettre ça en place ». Ça s'est fait en criant ciseaux. C'est vraiment quelque chose qui est bien coordonné, qui est bien organisé. Ça prend beaucoup de discussions avec les partenaires. Puis ça prend aussi le bon message à chaque endroit parce qu'il faut que ce soit bon pour toi, mais il faut aussi que ce soit bon pour celui qui te reçoit. Tu ne dois pas juste penser à toi là-dedans. Tu dois aussi penser à ton autre vis-à-vis pour que les deux veuillent se suivre dans cette danse-là puis que ce soit bénéfique pour tout le monde.
Est-ce qu'on a regardé un peu de la façon dont ça s'est passé au fédéral avec un Mark Carney qui a remplacé Justin Trudeau et qui a commencé à piger un peu dans le cahier de jeu des autres partis? Tu sais, aujourd'hui, on a Christine Fréchette qui annonce la baisse d'impôts pour ce qui est des PME. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas suffisant, là, mais il y en a d'autres qui vont dire ben, c'est le fun, on va la prendre. Là, les autres partis qui avaient ça dans leur plan, c'est-à-dire de donner un break aux entreprises, sont en beau fusil, puis là, ils font part de leur mécontentement. Est-ce qu'on s'est inspiré un peu de ce que Mark Carney a fait en remplaçant Justin Trudeau du côté de la province de Québec?
Ben, c'est sûr qu'on a regardé ce que tout le monde fait justement dans une transition comme celle-là, puis qu'est-ce qui permet de frapper l'imaginaire. Alors, on parle souvent de l'exemple de Mark Carney parce que c'est un exemple qui est très frappant pour nous tous. Hein. On l'a vécu, puis la transformation a été drastique dans le cas de Mark Carney. On avait un parti qui était, Justin Trudeau était 20 points derrière Pierre Poilievre, puis Mark Carney est arrivé, du jour au lendemain, il était 10 points devant, tu sais, quasiment. C'est énorme, ce changement-là. Alors oui, on s'inspire de ces changements de narratif-là. Maintenant, il y a aussi des gens autour de Mme Fréchette qui, ce plan-là, l'ont très clair depuis même qu'ils ont commencé à penser à ce que Mme Fréchette se présente à la chefferie. De se dire, oui, on peut le faire, on peut gagner à chefferie, mais il faudra aussi être fort après parce qu'il va falloir aller vite, il va falloir passer des images, il va falloir montrer que Mme Fréchette, c'est la nouvelle première ministre. Pour faire oublier M. Legault. Donc, là-dedans, il y a quelque chose. Le livre, il est un peu le même pour tout le monde. Construire un narratif, ça se fait de la même façon. Ça prend deux choses, hein? Trois choses. Des acteurs qui soient solides. Ça prend des messages qui soient bons. Ça prend des images qui soient frappantes. Dans le cas de Mme Fréchette, on a les trois en ce moment. Puis à chaque intervention, on a les trois. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui avec cet investissement, hein, cette espèce de petite chicane à venir, peut-être fédérale, provinciale, sur la formation professionnelle. Tu vois, tout de suite, elle a repris ses messages. Je suis en mode collaboration. Je m'attends à ce que ça fonctionne. On a déjà les structures. Et ça, là-dessus, elle n'est pas prise au dépourvu par à peu près rien en ce moment. Et ça aide beaucoup à ce que les Québécois aient confiance de dire « Ah, attends une seconde. J'ai-tu envie de lui donner une chance par hasard? »
Ouais.
C'est juste ça qu'elle doit mettre en ce moment dans la tête des gens.
Mark Carney a été mis en place et bien accepté par les Canadiens parce qu'il y avait un vilain de l'autre côté. Ça prenait quelqu'un avec un CV économique, disons ça comme ça, et Mark Carney l'avait. On disait, ben, il y a un vilain de l'autre côté, ça nous prend Batman, et notre Batman à nous, ce sera Mark Carney pour lutter contre le vilain. Est-ce qu'on va tenter de reprendre à peu près la même recette avec Mme Fréchette, c'est-à-dire, ben, Mme Fréchette, ça va être la dame qui va empêcher le méchant Paul Saint-Pierre Plamondon de tenter de faire la souveraineté dans un premier mandat. Est-ce que tu penses que ça va être ça? Ça va être un capitaine non, Mme Fréchette?
Je pense qu'il va y avoir un peu de tout ça, mais ça prend un mix au Québec. Parce que la différence, c'est que Mark Carney, comme tu dis, tu avais, oui, un ennemi qui était Donald Trump, mais avait aussi le fait d'avoir un adversaire qui était mal aimé malgré sa popularité. Pierre Poilievre, c'est un homme qui polarise. Il y a des gens qui aiment Pierre Poilievre. Les gens qui aiment Pierre Poilievre, ils ont voté pour lui. Les conservateurs ont eu la plus grande quantité de votes de leur histoire en termes numériques. Puis il y a des gens qui détestent Pierre Poilievre. Ces gens-là se sont unis contre lui.
Ouais.
Ça a aussi pris ça à Mark Carney pour gagner son élection. Du côté de Mme Fréchette, on est un peu dans les mêmes genres de calculs. Avant de gagner, il faut que les autres perdent. Donc là, la première chose, c'est que la question qui va se poser, c'est est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, avec sa promesse de référendum, est en train de perdre suffisamment de plumes pour perdre cette élection-ci? La réponse des sondages semble être oui, mais tu sais, moi, les sondages, je les crois jusqu'au jour du vote. Le jour du vote, c'est le vrai sondage qui compte. Après ça, est-ce que ses adversaires vont être capables de prendre la balle? C'est là où c'est intéressant l'annonce des impôts, par exemple. Parce que là, on coupe cela sur le pied de qui? Des libéraux, par exemple.
Ouais.
Les libéraux qui veulent se présenter comme étant économiques. Charles Millard qui se présente comme l'ancien président de la Fédération des chambres de commerce. Les PME, c'est supposé être son terrain de jeu. Et là, ils viennent lui couper l'herbe sous le pied de son terrain de jeu. D'ailleurs, on a vu dans les réactions, ils ne sont pas très contents, les libéraux et les péquistes non plus. À un moment donné, par exemple, il va falloir qu'ils soient capables d'offrir plus de choses. Donc, si les adversaires de Mme Fréchette ne sont pas capables d'être meilleurs, ben oui, elle va prendre cette place-là. Et là, ça va être le mix. Des adversaires qui sont moins forts ou des adversaires qui déplaisent, avec en même temps un contexte qui lui est favorable. Puis ce contexte-là, c'est clair que la promesse d'un référendum, ça n'aide pas le PQ parce que les gens sont craintifs d'avoir un référendum pendant une période d'instabilité économique.
Parce que là, on a un capitaine de l'autonomie en Éric Duhaime, on a un capitaine du non autoproclamé en Charles Milliard, on a un capitaine du oui en Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc j'ai hâte de voir clairement le positionnement de Mme Fréchette. Est-ce qu'elle aura assez de temps avant les prochaines élections pour se positionner, pour faire partie du top 3? Est-ce que tu as cette impression-là?
Moi, je pense qu'elle va être capable de se positionner d'ici le mois de juin. La difficulté, ça va être juillet ou septembre. Okay? Je t'explique pourquoi. D'ici le mois de juin, elle va avoir la majorité des caméras sur elle. Ça va être plus facile parce qu'elle est première ministre. L'Assemblée revient la semaine prochaine. On va repartir certaines activités et la première ministre va être en fonction. Après ça, on va arriver à la période estivale et là, on va avoir 5 candidats sur la ligne de départ. Et là, l'affaire, c'est qu'elle va falloir qu'elle représente une certaine nouveauté, un certain renouvellement. Ça va être ça son grand défi. Mais un renouvellement en ayant des péquistes, des libéraux, des conservateurs, des solidaires qui aussi présentent leurs candidats,
ouais,
présentent leur futur ministre des Finances, leur futur ministre de la Culture, etc., etc. Donc là, elle va être noyée avec plus de monde qui vont avoir le même genre de parole. Et c'est là où son défi, ce sera de ressortir, par exemple, inspirer la nouveauté avec des gens qu'on entend depuis 8 ans. Compliqué, ça. Alors ça, là-dessus, chaque nouveau candidat vient remplacer un ancien candidat. Et ça, là-dessus, ça va jouer. Cette danse-là va être la danse la plus complexe pour elle. Mais ce qu'elle fait en ce moment nous démontre qu'elle est capable de faire ce genre de narratif-là. Elle est bien entourée pour ça aussi. Maintenant, le contexte sera un peu différent cet été.
Puis, de par la façon de faire de Christine Fréchette actuellement, ce qu'on me dit à l'interne, c'est qu'il y a des gens qui pourraient peut-être revoir leur décision de quitter la coalition Avenir Québec. Est-ce que c'est ce que tu as entendu aussi de ton côté? Donc, des gens qui ne voulaient pas nécessairement se représenter pour un autre mandat, mais là, en voyant la Christine Fréchette en haut qui semble vouloir faire une belle job, sont un peu redynamisés là, par la politique.
Ben, j'entends ça aussi. Puis, la question que je me pose, je n'ai pas la réponse encore, c'est: est-ce que Mme Fréchette, elle veut ça?
Ben,
ou est-ce qu'elle ne veut pas profiter de l'opportunité d'avoir du nouveau sang aussi qui rentre? Parce que, tu sais, un candidat qui se représente, qui dit « finalement, j'ai envie de rester », ben c'est aussi un siège de moins à combler avec un nouveau visage, puis un siège qui actuellement est caquiste. Donc, c'est plus facile de convaincre quelqu'un en disant « tu sais quoi, ça, c'est un siège qu'on est capable de garder, regarde les chiffres, on l'a gagné les 2-3 dernières élections », plutôt que d'avoir seulement des comtés que tu es sûr de perdre. Donc, tu sais, renouveler, c'est aussi ça. Mark Carney a réussi une chose, c'est qu'il a réussi à renouveler sans trop changer de monde en arrière. Tu sais, il y a quelques nouveaux candidats, mais ce n'était pas une tonne de nouveaux candidats. Et il a gardé la majorité des visages forts de Justin Trudeau. Mais c'était lui la nouveauté. Lui était complètement nouveau. Dans le cas de Mme Fréchette, c'est un peu plus complexe parce qu'elle n'est pas si nouvelle que ça. Elle n'est pas nécessairement extrêmement connue, donc il y a beaucoup de gens qui la découvrent en ce moment. Mais je pense que ça va lui prendre un petit peu plus de nouveauté dans son équipe. Donc là, il faudra trouver l'équilibre là-dedans pour aussi avoir des gens qui sont à la capacité d'être élus. Puis on le rappelle, en ce moment, Yannick, il y a 0 député caquiste élu selon les prédictions de Québec 125.
Exact.
Donc on parle pas de loin, on parle de très, très, très loin avant d'arriver à justement être capable de former un gouvernement ou même l'opposition officielle.
Est-ce que ça t'a surpris la perte de vitesse pour ce qui est de la grande région de Québec? On avait énormément de ministres dans l'est du Québec, principalement dans la capitale nationale. Là, on en a perdu beaucoup. Est-ce que ce sera une priorité de Mme Fréchette de tenter d'ajouter des gens de qualité dans le secteur de Québec pour faire en sorte que la capitale nationale soit représentée par quelques ministres là, et non pas par plusieurs ministres et non pas par une petite poignée de ministres?
Là, tu sais, il va y avoir Bernard Drainville qui devrait être à nouveau le candidat fort hein, dans cette région-là.
Il faut qu'il gagne.
On voit Karianne Bourassa qui est ministre.
Faut qu'il gagne dans sa circonscription, M. Drainville.
Tout à fait.
Ce ne sera pas facile.
Ultimement, dans la situation actuelle, il faut tous qu'ils gagnent. Hein. Donc, tu vas avoir, oui, tu vas avoir Karianne Bourassa. C'est pas pour rien que Mme Bourassa est ministre puis que Samuel Poulain a pris du galon aux affaires municipales aussi. C'est que ce sont trois élus de la grande région de Québec parce qu'on veut montrer que c'est des élus qui ont de l'avenir. Okay? Mais il y a aussi le fait qu'à la Ville de Québec, on devra trouver quelqu'un. Pourquoi? Parce que il y a deux éléments importants. D'abord, Jonathan Julien, qui était un lien avec la Ville de Québec, on le rappelle, qui avait été à l'exécutif de Régis Labeaume. Mais aussi, on a Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault, c'est le symbole de la naissance de la CAQ ou de l'arrivée de la CAQ au gouvernement. Elle avait remporté cette élection partielle dans Louis Hébert, on le rappelle, environ un an et quelques avant l'élection générale. Et ça avait été l'élan initial vers la victoire de la CAQ en 2018. Alors, il y a des symboles comme ça qui sont extrêmement forts. Elle devra trouver un remplacement adéquat à cette personne-là, à ce symbole-là, à une ministre aussi qui est très forte, médiatiquement parlant. Geneviève Guilbeault, c'est un visage que les gens connaissent. Alors, c'est sûr que ça lui prendra quelqu'un qui comble un peu ce besoin-là. Mais c'est le genre de comté où, justement, tu peux attirer des gens intéressants.
Il faut que ce soit un comté qui soit favorable à redonner une chance aux caquistes aussi. Est-ce que ça t'a surpris qu'on soit pas capable d'amener un candidat ou une candidate de qualité qu'on aurait pu nommer ministre sans qu'il soit élu, un peu comme on avait fait à l'époque avec François Legault? Là, on l'avait inclus dans le cabinet des ministres alors qu'il n'avait jamais été élu. On a tenté d'approcher Guy Ouellet et ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai eu comme une petite crainte parce que j'ai vu qu'Olivier Primeau avait été invité. Ouais. au dévoilement du cabinet des ministres, là, je trouvais ça très particulier parce que Olivier Primeau m'avait dit, moi je veux faire les étapes dans le bon sens, c'est-à-dire commencer comme député, par la suite prendre un ministère si possible et après ça grimper les échelons. Et là, de voir qu'il avait été invité, je me suis dit, on passe de Guy Ouellet à... C'est-tu Guy Ouellet?
C'est Guy Cormier.
De Guy Cormier à Olivier Primeau. J'aime bien les deux, là, mais le CV n'est pas pareil au niveau économique, là.
Ben non, c'est clair. Puis tu sais, quand tu parles de ces gens-là, on a fait une tentative. Puis moi, j'étais de ceux qui espéraient qu'elle arrive à attirer un nouveau visage comme ça. Après ça, par exemple, je me suis dit, ben c'est sûr que quand tu as 84 députés qui, eux, espèrent avoir ce poste-là, c'est risqué aussi de perdre du monde à l'interne aussi rapidement, alors que tu es dans l'espèce de sprint final. Donc, je pense que Mme Fréchette a fait un choix avec son équipe. Oui, ils ont approché M. Cormier. J'ai entendu d'autres noms aussi. Là. Puis tu sais, au bout de la ligne, il y a tellement eu de rumeurs. Parce que quand tu dis « je vais approcher un non-élu », tout le monde a une idée de qui ça pourrait être finalement. Hein. Tu sais, les rumeurs sont ce qu'elles sont. Alors, je suis sûr qu'il y a eu des approches. Je pense qu'on a aussi fait un choix stratégique. Puis, c'est peut-être mieux d'avoir des nouvelles candidatures qui n'ont pas été sous les feux de la rampe trop longtemps avant puis qui représentent un renouveau pour le prochain gouvernement que d'user des cartouches tout de suite. Alors, je pense que là-dessus, il y a des discussions qui se poursuivent. Mme Fréchette est certainement en conversation avec des gens intéressants. Et parce qu'elle est une personne qui, en ce moment, fait un bon travail, ben, ça va faciliter sa capacité à attirer du monde.
Est-ce que le contexte est favorable aux politiciens présentement? Je regarde les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont extrêmement cruels à l'égard des politiciens. Les gens ont toujours l'impression de se faire mentir. Les gens ont toujours l'impression de se faire vider les poches. Ils n'ont pas l'impression... Puis là, je dis les gens, ça se peut que vous ne pensiez pas comme ça, puis c'est bien correct, là, mais moi, c'est ce que j'entends autour. Ce n'est pas une étude scientifique, mais ils n'ont pas l'impression d'avoir un bon retour sur l'investissement. C'est cruel, la politique, parce que tu passes de quelqu'un de bien avec un beau CV à, quand tu es élu, oh, tu es peut-être un crosseur, tu sais. C'est-tu attirant, Victor, la politique, présentement, en 2026?
Est-ce que c'est attirant pour tout le monde? Pas nécessairement, tu sais, je pense qu'il y a ce côté très négatif, parce qu'on est très dur avec nos politiciens, je suis d'accord avec toi, tu sais, puis... On a tendance à oublier aussi que c'est un domaine où est-ce qu'on peut rarement faire plaisir à tout le monde. C'est l'art de faire des choix. Il y a des questions financières, il y a des questions aussi d'équipe. Mais je pense que pour quelqu'un qui veut faire une différence dans la vie, il n'y a pas de meilleur véhicule. Tu peux avoir d'autres véhicules qui sont très bien, mais le véhicule de la politique, c'est un véhicule qui est quand même extraordinaire. Avoir la possibilité d'influencer nos lois, nos règlements, de changer les choses à long terme pour le Québec, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Et je pense que quand des élections arrivent, il y a toujours du monde qui ont cette envie-là de donner à la société, qui ont cette envie de donner autrement. Alors, tu sais, il y aura toujours des gens pour aller en politique. Est-ce que, par exemple, c'est le type de profil auquel on s'attend d'habitude? Puis, tu sais, je pense à Guy Cormier, on a beaucoup entendu son nom. Je suis sûr que M. Cormier se pose la question, est-ce que c'est ça ma meilleure façon d'avoir une contribution? Et là où ça peut être dur, c'est que ça peut être dur pour la famille, pour l'entourage. Il y a un moment pour choisir la politique. T'sais, moi, je raconte souvent à mes amis, tu sais, moi, j'ai eu la discussion quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit, j'ai déjà fait de la politique, mais je lui ai dit, je te garantis que j'en ferai plus. Puis elle m'a dit, bah, tu sais, je suis pas sûr que j'aurais envie de ça dans ma vie. T'sais, mais moi, c'était une promesse, je voulais voir mes enfants grandir.
Ouais.
Je voulais pas être 3 jours/semaine à Québec, puis être sur la route, puis tout ça. Alors, tu sais, il y a plein de monde comme ça. Je pense qu'il y a un moment dans une vie où est-ce que tu fais de la politique parce que tu es à l'aise de le faire, puis tu dis, en termes familial, en termes financiers, ça fait du sens. Il y a des moments aussi où ça fait moins de sens, où le sacrifice est trop grand. Donc, tu sais, c'est un choix très, très émotif, c'est un choix de carrière, mais c'est un choix de vie. Alors, je pense que là-dedans, on a la chance d'avoir une société où est-ce que, malgré la critique, on a quand même des politiciens qui peuvent faire une différence. Alors, je pense qu'il y en aura 750 au minimum ou même plus. Il y aura plus d'un millier de personnes qui vont faire ce choix-là en septembre et octobre prochain. Et je pense que c'est encore attirant comme domaine.
Je regarde actuellement la job sale qu'on est en train de faire sur Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Je vais être très honnête avec toi, Paul-Saint-Pierre-Plamondon, c'est pas mon cheval, là, mais il a gagné tout mon respect dans les dernières semaines quand il y avait un sondage qui a été publié, puis on lui a dit, ben, si jamais vous laissez le référendum de côté, vous allez monter à 39% des intentions de vote, vous allez scorer aux prochaines élections, vous allez être premier ministre. Et là, lui dit, ben, savez-vous quoi, si je reviens sur ma parole, il n'y a plus personne qui va me croire, donc ce sera un référendum dans le premier mandat. Pour l'instant, c'est ça. Donc, il a gagné tout mon respect à ce moment-là. Mais là, je suis en train de voir une job sale faite par des gens qui seraient, je vois encore de façon hypothétique, là, dans l'entourage de Québec solidaire. Est-ce que c'est des gens qui ont des cartes ou est-ce que c'est des gens qui ont des contacts chez Québec solidaire? Je ne sais pas. Mais là, on est en train d'essayer de faire passer Paul-Saint-Pierre-Plamondon pour un mononcle qui veut renvoyer les femmes à la cuisine puis qui les verrait comme étant des êtres uniquement pour fabriquer des bébés. C'est épouvantable ce qu'on tente de lui faire passer sur le dos.
Oui, tu as raison. On va trop loin dans plusieurs cas. Puis ça, c'est l'élément polarisation. Okay? Mais moi, je vais te faire une confidence, puis j'en ai pas parlé beaucoup parce que je suis toujours très prudent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens politiques, quels qu'ils soient. Mais tu sais, je l'ai dit au sujet de M. Legault, puis je le dis au sujet de Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Moi, il y a des choses que Paul-Saint-Pierre-Plamondon a dites sur l'immigration et sur ces sujets-là qui m'ont blessé. Il y a des choses là-dedans où je trouve qu'il est allé trop loin.
Oh, OK.
Il y a des choses où je suis obligé de faire des rapprochements avec des discours que j'ai entendus dans d'autres pays, par exemple en Europe, et auxquels je ne suis pas prêt à croire. Quand j'entends Paul-Saint-Pierre-Plamondon parler de frérisme et de dire que le gouvernement fédéral ferait partie du plan, je ne peux pas aller là. Je trouve qu'en ce moment, il y a une enflure verbale partout sur ces sujets-là. Puis il faut faire bien attention parce qu'au Québec, on a la chance d'être dans une autre société que des sociétés où est-ce que justement, des deux côtés, on s'enfle un peu trop dans les discours puis on fait de la désinformation. Paul-Saint-Pierre-Plamondon n'est pas un masculiniste qui a l'intention de renvoyer les femmes chez elles et d'abolir l'avortement, etc., etc. Puis ceux qui essayent de faire passer ça comme message sont des antidémocrates qui nuisent à la démocratie en faisant ça. Mais d'un autre côté, de l'autre côté aussi, en ayant un discours anti-immigration, on a permis certaines choses, on a permis certains discours peut-être plus durs envers l'immigration qui, moi, m'ont fait mal, qui ont fait mal à des gens dans la population, qui ont fait mal à des gens qui se promènent dans la rue. Il y a des femmes voilées aujourd'hui qui se font attaquer par du monde à Montréal. Tu sais, il y a des enfants qui entendent des choses dans la cour d'école. Mon fils m'a déjà dit « Hey, papa, vas-tu pouvoir rester ici? » Tu sais, nous, on est un peu différents en termes de couleur de peau. Que mon fils de 10 ans me dise ça, c'est pas normal.
Non.
Et ça, c'est pas à cause de Paul-Saint-Pierre-Plamondon, mais c'est à cause d'un discours ambiant. Et là-dessus, on est tous responsables de ce discours-là. Donc, à chaque fois qu'il y a une enflure verbale d'un côté ou de l'autre, on va trop loin. Qu'on soit capable de se critiquer sur les sujets. Tu sais, moi, je dis souvent, c'est en anglais, puis je m'excuse pour l'anglais, mais tu sais, on dit souvent « play the subject, don't play the man ». Il faut que tu joues le sujet, pas l'homme. La politique est un sport extraordinaire, mais c'est un sport sur les thèmes. Tu sais, moi, j'adore débattre et je débat régulièrement à la télé. Mais je le fais toujours en disant « je débat sur un sujet ». Je ne débat pas contre une personne, puis mon but, ce n'est pas de détruire une personne, c'est de faire valoir mon point sur un sujet. Et en ce moment, on a trop parlé de gens en général. Tu sais, on attaque les gens. Je vois les gens s'attaquer entre eux. Je vois qu'on attaque du monde pour plein de choses. On peut-tu arrêter d'attaquer les personnes, puis on peut-tu attaquer les enjeux, puis justement parler des vrais enjeux? Alors, tu sais, ça, c'est une responsabilité qui est partagée. Puis je ne veux pas accuser Paul-Saint-Pierre-Plamondon de quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a des déclarations sur lesquelles il est allé trop loin. Dans certains cas, il l'a reconnu. Dans plusieurs cas, il l'a corrigé. Mais il faut faire attention à ces déclarations-là. Parce que pour moi, un politicien a une il représente quelque part l'espèce de minimum syndical. C'est comme si, comme société, on se dit, ben, si le politicien va là, moi, je peux aller jusque-là. Malheureusement, des fois, les gens ils vont plus loin que le politicien, puis c'est là où on se retrouve avec des discours haineux, des discours, puis que ce soit à droite, à gauche, au centre, peu importe, tout le monde est capable d'avoir les mauvais discours. De ce temps-ci, ça va le bas, ça va trop loin dans plusieurs accusations, et ça joue un peu trop sur le personnel pour moi.
Est-ce que les sondages font en sorte que les gens automatiquement vont aller vers la personne qui serait pressentie à devenir premier ministre puis prendre le gouvernement en place? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on s'attaque gratuitement de cette façon-là? Ou parfois, peut-être c'est correct de s'attaquer à ses propos, je suis entièrement d'accord avec toi, mais moi, l'histoire comme quoi Paul Saint-Pierre Plamondon, ce serait un masculiniste qui veut retourner les femmes au fourneau. Je me dis, mais pourquoi on l'attaque de cette façon-là? La plupart des gens ne le perçoivent pas comme ça. C'est quoi l'avantage d'un parti à attaquer Paul Saint-Pierre Plamondon?
Mais il n'y a pas d'avantage. Puis tu sais, à un moment donné, là-dedans, est-ce que c'est des partis ou est-ce que c'est des gens qui sont extrémistes? Puis ça, là-dessus, moi, je n'ai pas de problème à le confronter de même. Tu sais, puis on a souvent parlé de Québec solidaire, puis de son militantisme versus son caucus, puis ses membres. Tu sais, puis ça a toujours été la bataille de Québec solidaire. Tu parlais des gens peut-être plus proches de Québec solidaire. Mais tu sais, ultimement, c'est des gens qui ont des déclarations. C'est pas le parti qui est sorti en faisant des déclarations. Puis je pense que là-dessus, on a des partis qui ont une responsabilité à prendre de dire « Wow, stop, on n'ira pas jusque-là ». Puis ça, là-dessus, moi, je m'attends à ce que tous les politiciens, en vue de la prochaine campagne, ils fassent ce geste-là. Ah ouais. Après ça, qu'il y ait des gens qui disent des choses. Tu sais, Yannick, moi, tu te rappelles, on a à peu près le même âge, là. Tu te rappelles d'une époque où est-ce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Quand quelqu'un disait une niaiserie, son cercle d'influence était très restreint.
Exact.
Il était entendu peut-être par 10 ou 15 personnes, puis ça s'arrêtait là. Le problème aujourd'hui, c'est quand quelqu'un dit quelque chose, son cercle d'influence est beaucoup trop large. Puis il y a du monde qui ont géré ça adéquatement puis en ont fait quelque chose de bien. Puis il y a du monde qui ont géré ça extrêmement mal puis en ont fait quelque chose de mal. Alors tu sais, dans tout ça, on a besoin certainement d'un peu plus d'équilibre. On a besoin de faire attention avec notre cercle d'influence. Je pense qu'il faut accepter aussi l'époque dans laquelle on vit. Puis l'époque dans laquelle on vit, c'est une époque où est-ce que justement ce genre de choses-là peut arriver et on a une responsabilité collective de lutter contre ça. Comment? En dénonçant quand ça arrive. Comme moi, je suis un peu comme toi. Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est pas mon cheval. Je suis pas souverainiste. Puis je lui en veux sur certaines déclarations sur l'immigration. Je trouve qu'il devrait faire attention parce que ça blesse du monde. Mais en même temps, je sais aussi ce qu'il n'est pas. C'est un homme de famille, puis c'est un homme moderne, puis c'est pas un masculiniste. Puis les gens qui font ça, ben, ils font de l'exagération, ils font de l'extrémisme. L'extrémisme, en passant, ça existe à droite et à gauche. Il faut arrêter de s'accuser les uns les autres, mais il faut aussi que tout le monde fasse attention.
Alexandre Boulris qui se fait le saut chez Québec solidaire, est-ce que tu trouves ça courageux de sa part?
Je trouve ça courageux, oui. Ça aussi, c'est des choix de conviction, tu sais. Mais en même temps, Alexandre Boulris, je le trouve courageux depuis un bon moment parce que déjà, être au NPD, c'était quelque chose.
Oui, ben, lui,
c'était courageux d'être au NPD.
Il était envoyé par la vague orange avec Jack Layton en 2011, de mémoire.
Oui, 2011, vague orange, sa première élection. Mais Alexandre Boulris fait partie de ces députés qui sont, moi, j'appelle ça des députés modèles, OK? Tu sais, c'est Pascal Bérubé, c'est ça, à Matane. Alexandre Boulris dans Gouin, c'est des exemples. Denis Coderre était ça à Montréal-Nord en passant dans le temps aussi. C'est des députés qui sont plus forts que leur parti dans le secteur où est-ce qu'ils sont. Alexandre Boulris, là, c'est un gars qui gagnait ses élections haut la main. La dernière élection fédérale, je l'ai croisé dans la rue en train de faire du porte-à-porte une semaine avant le déclenchement des élections. Puis son but, c'était de faire le plus de portes possible. Puis tu sais, Pascal Bérubé, tu vas à Matane. Puis Pascal Bérubé à Matane, il connaît tout le monde, puis il parle à tout le monde. Puis tout le monde l'apprécie parce que c'est un député de terrain, puis il parle à son monde. Ça, là-dessus, c'est toujours extraordinaire de voir des gens qui ont compris la job de député. Alexandre Boulris avait compris ce job-là au fédéral. Je pense qu'il cherchait un véhicule un peu plus proche du concret. Parce que le fédéral, c'est loin du concret. Puis tu sais, le NPD, on va s'entendre, c'est un parti qui n'a plus d'influence. Donc, tu sais, l'influence de changer des choses. Alexandre Boulris, sa dernière mandat, tu sais, il pouvait dire, ah, tu sais, avec les libéraux minoritaires, on peut amener l'assurance médicale, dentaire et des choses comme ça. Mais là, qu'est-ce qui lui restait comme influence? Je pense qu'en venant à Québec, il fait un pas vers la proximité avec les besoins des citoyens, avec la santé, l'éducation, des choses comme ça. Mais il fait aussi un pas vers une option de gauche qui lui apparaît comme étant un véhicule intéressant. Et ça, ce sera bien intéressant à voir les prochaines années parce que Québec solidaire est devant, pour moi, devant une espèce de moment charnière. Est-ce qu'il va être capable d'incarner la gauche au Québec ou est-ce qu'il va incarner l'extrême gauche au Québec? C'est deux choses bien différentes.
Ouais.
Alexandre Boulry se donne une chance à QS pour incarner à gauche.
La cohabitation va ressembler à quoi avec un député qui va être extrêmement fort de Québec solidaire puis un parti qui est très, très faible dans les intentions de vote? Parce que là, moi, j'ai pensé à Sol Zanetti. Là, je veux dire, j'aime bien Sol Zanetti. Là, c'est un gars qui est quand même sympathique. Là, mais je veux dire, il n'y a pas la... au niveau des communications, c'est pas la même chose qu'Alexandre Boulris. Tu dis que c'est un député qui est un modèle, Alexandre Boulris. Moi, au niveau des communications, quand il parle, c'est clair. Il est très directif dans sa façon de faire. Moi, j'adore ces individus-là. Des phrases courtes qui sont comprises par monsieur et madame tout le monde. Et la cohabitation avec Sol Zanetti, qui est co-chef de Québec solidaire, ça sera pas facile.
Non, ce sera pas... avant l'élection, ça va être plus simple. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'Alexandre Boulris va se concentrer sur son comté. Ouais. C'est Rouba qui va tenir le fort, qui va être la chef en campagne, d'une certaine façon.
Ouais.
C'est elle qui sera le visage de Québec solidaire durant la campagne électorale. Après l'élection, ça peut être plus complexe. Parce qu'après l'élection, on va voir chez Québec solidaire qui il reste. Et je pense qu'Alexandre Boulris fera partie de ceux qui sont là. Je ne sais pas si Sol Zanetti fera partie de ceux qui seront encore là. Et à ce moment-là, les cartes vont être redistribuées. Dans ces cartes-là, Alexandre Boulris a une très bonne expérience parlementaire. Mais ça reste qu'Alexandre Boulris aussi devra apprendre le Parlement québécois et apprendre la politique au Québec. Il devra aussi apprendre à connaître le parti qu'il a choisi. Alors, il représentera aussi une nouvelle faction de ce parti-là. Non seulement c'est le remplaçant Gabriel Nadeau-Dubois dans le comté, mais c'est aussi le remplaçant Gabriel Nadeau-Dubois un peu dans les idées.
Exact.
Alors, ce sera de voir comment est-ce qu'il s'implante. Mais aussi, on verra qu'est-ce qu'il reste à QS après.
Mais est-ce qu'il va réussir à l'endroit où Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas réussi, c'est-à-dire à amener ce parti-là peut-être un peu plus au centre pour un jour peut-être espérer gouverner?
Je pense que c'est une grande question. Je ne suis pas assez proche de Québec solidaire pour être capable de te donner une réponse adéquate. Il y a une chose, par exemple, c'est que je pense qu'Alexandre Boulris a démontré en étant 15 ans au NPD fédéral qu'il était peut-être plus patient que Gabriel Nadeau-Dubois par rapport à ça. Et que peut-être que lui, justement, dans sa façon de voir les choses, il prendra un peu plus le temps de voir ce parti-là se transformer. Gabriel Nadeau-Dubois, c'était, rappelons-le, lorsqu'il est arrivé, c'était une superstar politique. On appelle ça un talent générationnel. Gabriel Nadeau-Dubois est à la gauche québécoise que Sidney Crosby est au hockey.
Tu vas bien trop loin, là.
Ben non, je vais pas loin. J'ai bien dit à la gauche québécoise.
Les gens le voyaient comme un petit arriviste qui n'avait jamais travaillé de sa vie. Ouais.
Tu sais quoi, les gens le voyaient peut-être de même, mais pour la gauche, c'était un personnage absolument unique. Là. Rappelons-le, c'est quelqu'un qui allait dans les manifestations étudiantes. Il arrivait là, tout le monde le connaissait. Il représentait un avenir, il représentait une voix extrêmement forte, un excellent communicateur. J'ai pas peur de dire ce que j'ai dit. Tu sais, pour la gauche, c'était le joueur étoile. C'était le joueur le plus intéressant pour eux à cette époque-là. Il est arrivé là, je pense qu'il a vécu de grandes déceptions. Quelles que soient les raisons de ces déceptions-là, son parti, lui-même, sa façon de voir les choses, sa façon de travailler le terrain. Alexandre Boulris a un style un peu différent, un peu moins flamboyant aussi, parce que lorsque tu es très flamboyant, ça attire des gens, mais ça en éloigne plusieurs aussi. Et selon moi, plus patient. Alors, je pense que c'est différent comme style. Je pense qu'il aura la chance aussi d'essayer de transformer ce parti-là. Surtout qu'on ne sait pas où va se retrouver ce parti-là après une élection. En ce moment, lorsqu'on regarde les chiffres, il ne restera pas grand-chose comme député solidaire. Et reconstruire, c'est aussi une opportunité. Alors, je pense que la bonne nouvelle pour Québec solidaire, c'est qu'ils ont, à un des pires moments de leur histoire récente, trouvé un candidat qui va leur permettre d'aspirer à un futur après cette élection-ci, quoi qu'il arrive. Et ça, déjà, c'est un énorme gain pour QS.
Là, on a fait de la place à Alexandre Boulris parce que le comté où Alexandre Boulris allait se présenter, on voulait le garder pour une femme. Alexandre Boulris n'est pas une femme. On a fait une exception pour lui. Est-ce que Rouba Gazal va être capable de tenir le fort avec un Alexandre Boulris extrêmement puissant à l'intérieur du parti?
Je pense que oui. D'abord, parce que chez Québec solidaire, cette question de la dualité homme-femme est extrêmement importante. Puis là-dessus, Rouba Gazal représente aussi une force. Aussi le fait que Rouba Gazal est dans un comté où est-ce qu'elle est très solidement implantée. Tu sais, j'ai parlé de Pascal Bérubé, mais parce que Rouba Gazal fait aussi partie de ces gens-là qui ont vraiment créé des assises très fortes dans leur comté. Donc, je pense qu'il y aura une belle collaboration possible. Ce sera intéressant de voir comment Mme Gazal va jouer cette élection-ci, comment est-ce qu'elle va réussir dans la période électorale. On a eu à Québec solidaire des femmes extrêmement solides en campagne électorale. Françoise David, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois avait été très bon. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été éclipsé par Paul Saint-Pierre Plamondon, justement. Tu sais, c'était deux jeunes, d'à peu près la même génération. Ouais. Il s'était fait éclipser là-dedans. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Robagazal va nous donner dans une campagne électorale. Parce qu'une campagne électorale, c'est un moment charnière. Hein? Ça nous définit comme politiciens longtemps. Et elle aura cette opportunité-là de montrer sa différence, de montrer sa couleur. Je pense que le contexte va l'aider aussi à ressortir. Mais ce sera de voir comment est-ce qu'elle va se positionner. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de partis qui tendent vers la droite. Tout le monde est un peu à droite de ce temps-ci. Je pense que le contexte fait ça. Mais il y a une opportunité pour la gauche. Il y a un espace très grand qui est disponible. Est-ce qu'elle va réussir à convaincre ces gens-là? Est-ce qu'elle va coûter des votes au PQ? Parce que Québec solidaire mange le lunch du PQ d'habitude. Est-ce qu'elle va coûter des votes au PQ ou pas? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Mais je pense qu'elle aura son moment justement pour shiner avant qu'Alexandre Boulris arrive à l'Assemblée nationale, ce qui va lui permettre d'avoir un équilibre entre les deux.
Je regardais les sondages sur l'appréciation des politiciens, puis je veux te parler d'Éric Duhaime. Qu'est-ce qui fait qu'Éric Duhaime, ça fonctionne à Québec, mais dans le Québec, je dirais pas entier, mais mettons dans l'ouest du Québec, là, mettons qu'on prend Montréal, puis on remonte vers Gatineau, là, il semble pas très apprécié. C'est une des personnalités les moins appréciées du Québec, alors qu'on l'a pas vu vraiment dans l'actualité tant que ça, Éric Duhaime. Mm-hmm. C'est un phénomène des réseaux sociaux.
C'est un phénomène de réseaux sociaux. Éric Duhaime est fort là où les conservateurs sont forts. En partant, là, si on regarde la carte du Québec au fédéral, on retrouve pas mal les poches conservatrices sont des poches de croissance pour Éric Duhaime. Je pense que du côté des conservateurs aussi, on ne se mentira pas. À la dernière élection, la qualité des candidats dans la région de Québec, si on le compare à la qualité des candidatures dans la région de Montréal, on était à deux niveaux très différents. Et lorsque tu as des candidatures, elles te représentent dans un comté, mais à un moment donné, lorsque tu vois ces candidatures-là et qu'elles ne t'attirent pas nécessairement, ça peut être difficile d'ouvrir les oreilles. Le fait aussi qu'Éric Duhaime a une stratégie à dernière élection que j'ai trouvée particulière, j'ai hâte de voir s'il aura la même, c'est qu'il a visé national. Et quand tu vises national, tu ne vises pas des petites victoires, tu vises tout de suite le gros morceau. Moi, j'ai hâte de voir si cette élection-ci, les conservateurs ne vont pas mettre leurs énergies là où ils ont une chance de gagner. La Beauce, Lévis, la rive sud de Québec, certains comptent à Québec, mais encore là, et la rive nord de Québec. Ça, c'est l'espace. Je m'attends à Portneuf, par exemple, à une candidature forte parce que les conservateurs ont une chance de gagner Portneuf. Lévis, La Beauce, etc. Chaudière-Appalaches. Est-ce qu'on va concentrer les énergies là-dessus pour se dire, hey, notre but, c'est d'avoir 2, 3, 4 ou 5 députés à l'Assemblée nationale et non pas de convaincre tous les Québécois qu'on est bon? On aura 4 ans pour ça après. C'est comme ça que QS a fait en passant. C'est comme ça que QS est rentré à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils utiliseront cette même méthode ou ils chercheront à aller national encore? S'ils cherchent à le faire, ça leur prendra des candidatures dans d'autres régions qui sont significatives.
Ouais. Est-ce qu'on me dit du côté de la gang Éric Duhaime, ça ne vient pas d'Éric Duhaime, là, c'est Drummondville en descendant vers l'Est?
Bon, ben parfait. Alors, il y a ça de compris, ça c'est bon. Maintenant, Drummondville en montant vers l'Est, c'est quand même beaucoup de comtés. Alors, il faudra, selon moi, choisir aussi là-dedans. Mais ultimement, si tu veux percer justement, parce que ta question, c'est pourquoi est-ce qu'il ne perce pas dans la région de Montréal?
En fait, c'est pourquoi c'est un politicien qui est mal aimé. Toi, tu es un faiseur d'image, là, Victor Henriquez. Tu as travaillé en politique, tu sais comment ça fonctionne, la business. Pourquoi ce gars-là est mal aimé alors qu'on ne l'a pas vu pendant tout à l'Assemblée nationale? On commence à le voir avec Maïté Blanchette-Vézina.
Je pense qu'il est mal aimé parce qu'il vit avec le restant d'une pandémie qui a été le moment le plus polarisant de notre histoire récente. Et Éric Duhaime est arrivé à la dernière élection comme le candidat des anti-vax. Excuse-moi de le dire comme ça, là. Puis, tu sais, je ne dis pas que ces gens-là n'avaient pas de voix au chapitre. Au contraire, c'est un débat qu'on aurait dû faire plus qu'on n'a pas fait assez. Mais une fois qu'on dit ça, ça reste qu'il y a plus de 80% des Québécois à l'époque qui appuyaient des mesures sanitaires, qui se sont engagés, qui étaient du bord du gouvernement. Donc, ça reste que quand tu faisais partie du 20% et que tu te présentes comme le parti du 20%, il y a un 80% qui ne se reconnaît pas. Et c'est là où est-ce que maintenant, en brassant les cartes, les sujets ne sont pas les mêmes. Et vu que les sujets ne sont pas les mêmes, il faut que tu te défasses de ce qui t'a fait naître et que tu arrives dans des sujets plus globaux. Pourquoi tu penses qu'il parle d'autonomie? Parce que justement, il se trouve un sujet nouveau sur lequel il peut exister puis représenter une différence. Et c'est là-dessus où est-ce que je pense qu'il peut aller chercher des points en justement ayant plus d'écoute de la part des Québécois. L'enjeu d'Éric Duhaime, ce sera quoi? Ce sera qu'à la prochaine élection, les anti-référendums, appelons-les comme ça, que sont la CAQ, le PLQ, et le Parti conservateur du Québec, seront les trois à la recherche du lunch de l'autre. Et ils auront les trois le discours suivant. Un vote pour l'autre parti est un vote pour le PQ. Je pense que tu as déjà entendu ça dans d'autres élections. Jean Charest avait sorti ça à une époque. Un vote pour la DQ est un vote pour le PQ. Vous allez réentendre la même chose. Jean Mial va dire de la CAQ et des conservateurs. Les conservateurs vont le dire des libéraux et de la CAQ, etc., etc. Parce que dans le fond, ce qu'on cherche à être, c'est le porteur des anti-référendums. C'est ça que va être la prochaine élection. Et c'est là où est-ce qu'Éric Duhaime devra voir. Est-ce qu'il joue cette game-là? Ou est-ce qu'à la place, il joue la game de la division du vote dans une région où est-ce qu'il domine et qu'il se dit, ben moi, je me positionne pour l'avenir? On verra le niveau de patience qu'Éric Duhaime lui-même a. Tu as parlé de ce que son équipe a dit, mais en même temps, tu sais, quand tu es chef de parti, tu peux avoir des ambitions plus grandes que celles de ton équipe.
Est-ce que le positionnement de Capitaine Autonomie, pour ce qui est du Québec, avec le lancement de son livre, là, qui a été salué par énormément de gens, là, le livre d'Éric Duhaime, Destination Autonomie, est-ce que c'est un bon positionnement, selon toi, pour Éric Duhaime en tant que chef du Parti conservateur du Québec?
Je trouve qu'à long terme, c'est un bon positionnement, mais tu vois, je pense que là où peut-être ça va être plus dur pour la prochaine élection, c'est que je m'attends à ce que Mme Fréchette obtienne quelques petites victoires à Ottawa d'ici la fin de son mandat de premier ministre. Je parle d'ici le mois d'août prochain. Je m'attends à ce que Mme Fréchette aille chercher deux ou trois ententes. Je pense à l'habitation itinérante, je pense à l'entente sur la main-d'œuvre. Je m'attends à ce qu'elle aille chercher des bribes qui vont lui donner l'impression que la troisième voie fonctionne avec la CAQ. Parce que dans le fond, l'autonomie, c'est la troisième voie. Hein. On va s'entendre, tu as la voie des nationalistes, tu as la voie de la souveraineté, puis tu as la voie de l'autonomie. Certains diront que tu as la voie du fédéralisme, mais je ne connais pas un fédéraliste au Québec qui n'est pas nationaliste quelque part aussi. Alors, tu sais, au bout de la ligne, c'est les trois options. Et cette troisième voie, c'est celle de l'autonomie, c'est la voie de la DQ. Est-ce qu'Éric Duhaime pourra concrètement montrer que cette voie-là, elle est maintenant essentielle? Ou est-ce qu'il va avoir une confusion avec ce que Mme Fréchette va essayer de faire? Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion. Maintenant, si les résultats se concrétisent et que la CAQ se retrouve à zéro député, donc barré de la carte électorale, ben à ce moment-là, la troisième voie à l'Assemblée nationale, ce sera lui. Et là, ça va devenir intéressant, toute cette question de l'autonomie. Dans ce que je serais aussi intéressé à entendre, c'est l'autonomie, oui, mais dans un contexte canadien, c'est quoi l'autonomie? Parce qu'ultimement, pour que l'autonomie se fasse, il faut que les autres provinces aussi veuillent de la même autonomie. Idéalement, tu vas créer un mouvement de provinces. Donc, j'ai hâte de voir aussi comment Éric Duhaime peut positionner ça, notamment avec le référendum en Alberta, par exemple, ou avec d'autres provinces, parce qu'on va vouloir plus d'autonomie. Parce que la mouvance, elle est intéressante, à condition qu'elle soit incarnée quelque part d'autre que dans le livre d'Éric Duhaime. Il va falloir que ce soit un peu plus concret pour les Québécois. Et c'est là où donner des images, c'est important. Moi, je n'ai pas encore vu l'image de l'autonomie. Je pense que c'est ça qui manque dans les prochaines semaines. On verra s'il se rend.
Est-ce qu'on pourrait avoir des candidatures de qualité du côté d'Éric Duhaime, peut-être un peu plus qu'aux dernières élections, parce qu'Éric Duhaime score bien dans les sondages actuellement?
Je m'attends à ce qu'il y ait des candidatures intéressantes. Je m'attends à ce que dans la région de Québec, à ce qu'en Beauce, Chaudière-Appalaches, on soit capable d'attirer des gens d'affaires intéressants, des candidatures de qualité. J'ai aussi hâte de voir le comté, les différents comtés, par exemple, des comtés comme Bellechasse, parce que je m'attends à ce que les conservateurs aient une vraie chance de gagner. Alors oui, je pense qu'on pourra attirer du monde. Et ça va être important d'attirer des gens qui ont des profils différents de ce qu'on avait en 2022. Donc ça va être intéressant aussi. Puis tu sais, des fois, il y a des gens que tu vas attirer qui ne viendront pas nécessairement parce qu'ils vont devenir députés, mais qui veulent amener cette voie-là. Et ça, dans les autres régions qui ne sont pas celles où tu vises des victoires, où tu peux aspirer à des victoires, mais par exemple, dans la région de Montréal, c'est le genre de recrutement que tu vas chercher. Des gens de conviction à qui tu vas dire « Hey, tu aurais la chance pendant une campagne électorale d'être le porte-parole de nos idées dans ta région. » Ça aussi, ça peut attirer du monde. Donc oui, je m'attends à ce que les conservateurs soient capables d'attirer des gens de contenu dans la prochaine élection.
Parce que là, bon, avec Maïté Blanchette-Vézina, il y a quand même une porte-parole de qualité autre que Éric Duhaime. On a Karim Elayoubi aussi, qui est dans le secteur du Saguenay, qui s'implique en matière de santé pour le Parti conservateur du Québec. Mais sinon, les autres, on ne les connaît pas.
Ah non, c'est ça. Puis ça, c'est l'enjeu quand tu veux te faire connaître comme parti. T'sais. Mais en même temps, c'est là où je te dis... T'sais, moi, je pense que la stratégie... Oui, de Drummondville vers l'Est, mais très honnêtement, je pense que c'est la région de Québec. Puis là-dedans, il faut que tu fasses le plein. Tes énergies, il faut qu'elles aillent là. Ton budget, il faut qu'il aille là. Parce que tu as besoin de 4-5 députés. Tu sais, tu te rappelles-tu des 125 candidats solidaires, toi, il y a deux élections ou même à la dernière élection? La très grande majorité, c'était des gens inconnus que tu ne connaissais pas.
Je pouvais pas croire. Je pouvais pas croire qu'il y en avait 125. Fait que je... On est avec Victor Henriquez ce soir. C'est un chroniqueur politique. On va faire une courte pause, les amis, puis on vient tout de suite après.
Marceau, le soir. Le segment que personne ne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Là, deux semaines ou trois semaines, on reçoit les gars du Gong Show. Puis là, Jeff, tu veux-tu venir? Jeff, il dit oui, je vais être là. T'es le gars le moins drôle de la station.
Fait que c'est ça, c'est notre Jeff national qui est
t'as au Gong Show. T'as quasiment fait là trois minutes.
T'es un génie.
Qu'est-ce que ça te fait de rire du suicide?
Pour de vrai, oui, je t'ai rendu là.
Tu sais, vieillir, c'est être capable de transporter tout notre bagage. Mais de le porter comme tu viens de le porter là, je trouve ça impressionnant. Je trouve ça courageux. Puis moi, à partir du moment où tu les as dit « Hey, pèse pas sur le gong, je suis encore fragile », je t'aurais donné ton 5 minutes de break personnel.
Le Pit Stop de Boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h55.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévis qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapeauBen.com.
Boulevard 102.1 veut savoir. Votre plume sera-t-elle à la hauteur? Cette semaine, l'équipe de Gravel dans le retour en collaboration avec Tyson vous lance un défi un peu spécial. Celui d'écrire des proverbes au blvd.fm. Soyez créatifs, inspirés et surtout restez à l'affût pour savoir à quel animateur vous devrez adresser votre message. Chaque jour, vous pourriez gagner une carte cadeau de 50$ chez Tyson pour craquer les biscuits de fortune et en bonus, courez la chance de gagner un an de Général Tao.
Décourante, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15%. Visitez déco-rampe.com.
Salut, c'est Boucher.
Salut, c'est Lortie.
Lortie, une thermopompe, ça donne du froid l'été, du chaud l'hiver, c'est pas mal ça, non?
Ça procure surtout du confort quand c'est installé comme il faut.
Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire?
On vérifie la charge électrique, on optimise le débit d'air, on ajuste l'appareil selon les besoins et selon la réalité de la maison.
OK, parce qu'une thermopompe, c'est pas juste un climatiseur.
Ben non, c'est un système complet.
Fait que si c'est bien fait, ça change tout.
Thermopompe, énergie et optimisation.
C'est notre affaire.
Appelez-nous au 418-623-2323 ou faites une demande de service en ligne.
Boucher, Lortie, c'est réglé.
Les conditions météorologiques extrêmes peuvent survenir rapidement, souvent sans avertissement. Êtes-vous prêt? Connaissez les risques dans votre région ainsi que les mesures à prendre. Visitez préparez-vous.ca. Un message du gouvernement du Canada.
Pourquoi BDC pour mon entreprise? Je sens que c'est le moment, là. Ça bouge, l'économie change. On me parle d'automatisation, d'intelligence artificielle, puis moi, je me dis, faut que je me lance. J'ai besoin d'un prêt, mais aussi d'un vrai coup de main, quelqu'un qui m'accompagne là, pour vrai, puis qui va m'aider pour les prochaines étapes. Maintenant, là, pas plus tard.
Préparez la suite avec BDC. Obtenez du financement et des conseils adaptés à vos projets. Découvrez comment à bdc.ca/financement. BDC, financement, conseil, savoir-faire.
C'est la saison F-Sport chez Boulevard Lexus. Obtenez le NX 350 F2 Sport 2026, location 24 mois avec acompte à 808 $ par mois et le RX 350 F2 Sport 2026, location 24 mois avec acompte à 878 $ par mois.
Cet article est-il toujours disponible? J'ai répondu oui, 53 fois.
L'acheteuse a scratché ma télé en la mettant dans son char. Elle m'a demandé un rabais.
En venant essayer ma paire de jeans, la fille m'a raconté sa colonoscopie. Les jeans lui faisaient pas.
La fille qui voulait mon lave-vaisselle a fini par se pointer. En bixi.
C'est pas toujours facile de vendre, mais avec 70 points de collecte partout au Québec, c'est toujours facile de donner à Renaissance.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. Abbaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
V Victor Henriquez, chroniqueur politique, est avec nous ce soir. Je te remercie de participer à ce podcast-là de 60 minutes. T'es un gars hyper occupé, puis tu te donnes la peine de venir jaser politique avec nous une fois de temps en temps. C'est très apprécié, Victor.
Merci à toi, Yannick. Tu sais, j'ai toujours dit que c'est un privilège, alors j'apprécie que tu me permettes de rentrer dans ton studio.
Ouais. Moi, je te vois par Zoom. Les auditeurs ne te voient pas. Eux t'entendent, mais je constate qu'à à la télé, t'es beaucoup plus maquillé. T'es beaucoup moins beau en personne.
C'est normal. C'est normal. Que voulez-vous? Hein? L'illusion de la télévision. Ma femme, elle me dit la même chose. Des fois, j'arrive le soir, mais comme, peux-tu garder ton maquillage juste pour me donner des illusions?
Wow. Qu'est-ce qui t'a intéressé à la politique? C'était-tu dans ta tendre enfance, tes parents te parlaient de politique? Tu t'es dit, tiens, ça va être ça que je vais faire de ma vie?
Y a deux choses. La première, c'est que mon père, c'est un réfugié politique. Hein. Il est sorti du Chili dans la dictature. Il était condamné. Il s'est évadé de prison, puis il est sorti. Puis il était prêt à laisser sa vie sur la table pour ses principes. Donc ça, c'est la première chose.
Ouais.
La deuxième, c'est Bernard Tapie. Puis les gens qui ne connaissent pas Bernard Tapie, c'est un politicien français qui avait, excuse-moi de le dire comme ça, mais une méchante grande gueule. comme disent les Français. Et à l'époque, je me souviens d'un débat en 91 avec Jean-Marie Le Pen, qui à l'époque était au Front National. Donc, tu sais, centre-gauche, Bernard Tapie, président de l'Olympique de Marseille, qui est un gros club de soccer en France, et Jean-Marie Le Pen de la droite. Et le débat était hyper fort. Puis il avait même dit, « Monsieur, vous êtes un con, et les gens qui votent pour vous sont des cons aussi. » Et moi, ça m'avait marqué cette franchise-là en politique. Bernard Tapie, moi, j'aimais beaucoup le foot, j'aimais beaucoup le soccer. Puis il m'avait comme inspiré, j'étais comme « Oh mon Dieu, ça a l'air le fun, ce game-là ». Après ça, de fil en aiguille, ben, tu sais, j'ai eu Denis Coderre dans ma vie qui m'a beaucoup appris de choses, puis il y a eu des opportunités. Mais c'est les deux moments marquants qui m'ont donné le goût en disant « Hey, c'est le fun, tu peux changer le monde, tu peux changer les choses. » Et en plus, ben, tu sais, c'est corsé, puis des fois, ça boxe un peu. Moi, j'aime beaucoup communiquer, alors ça venait naturel.
T'aimes beaucoup la politique provinciale, t'aimes beaucoup la politique canadienne. Est-ce que tu t'intéresses à la politique internationale aussi?
100%. La politique américaine, la politique française, parce que j'habitais là-bas pendant 10 ans. Mais oui, en général, tu sais, parce que l'autre chose qui est le fun, c'est quand tu suis la politique à l'extérieur, c'est qu'il y a des tendances qu'on vit aujourd'hui qui se sont vécues ailleurs. Moi, je dis souvent aux gens, ce que j'entends, par exemple, aujourd'hui au Québec, je l'ai entendu en France il y a 10, 15 ans, il y a 20 ans. Alors, tu sais, des fois, c'est des vases communicants où quand tu regardes Donald Trump puis tu regardes le fond de son discours, tu sais, au-delà de « on l'aime ou on l'aime pas », mais tu sais, que tu l'entends parler de coût de la vie ou tu regardes les sujets qui intéressent les gens, c'est « attends une seconde, on n'est pas très loin ici aussi ». Alors, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui communiquent. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de regarder à l'extérieur de chez nous.
Actuellement, Mark Carney tente de dire à Donald Trump qu'on n'est pas si dépendant que ça des États-Unis. Il y a une entente qui est supposée d'être signée dans quelques temps. C'est l'ACEUM. J'entendais... ça, c'est une affaire que je ne savais pas. À tout le monde en parle. Monsieur Jean Charest était là. Puis, il agit à titre de conseiller pour le gouvernement canadien dans le dossier de l'ACEUM. Et il a mentionné que... si on ne réussit pas à en venir à une entente, ben l'entente est reconduite telle qu'elle avait été signée au départ par Donald Trump lors de son premier mandat et c'est reconduit jusqu'en 2038.
Exact.
Si on ne réussit pas à s'entendre, donc ce serait avantageux pour le Canada de laisser traîner ça le plus longtemps possible.
Ben, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est une mécanique hyper compliquée. Mais c'est une mécanique qui est faite d'abord pour être négociée très d'avance. Donc aujourd'hui, on négocie pour 2036. Parce que ces vases-là vont changer très lentement. L'autre chose, c'est comme tu dis, si on n'arrive pas à s'entendre, on a d'abord, à chaque année, on va revoir l'entente. On va dire, OK, est-ce qu'on renégocie, on est-tu d'accord, on n'est pas d'accord? 26, 27, 28, 29. Et ensuite, si en 29, on n'a toujours pas, on ne s'est toujours pas entendu, il y a 2 ans qui s'ajoutent. Donc finalement, Donald Trump, il ne sera plus là quand on va arriver en 29. Donc en 29, on va jaser avec quelqu'un d'autre, puis on va dire, OK, on négocie, puis on va négocier plus vite. Alors tu sais, dans le pire des cas, ce sera ça. Puis c'est ça qui change la donne. Mais la seule chose, c'est que ça, je ne suis pas sûr qu'on l'a expliqué. Puis l'autre chose, c'est que je ne suis pas sûr que ça ne vient pas avec des conséquences aussi. Parce que, tu sais, en ce moment, l'aluminium, l'acier, on voit les fermetures dans le monde du meuble, on voit que ça a des conséquences pareilles. Donc, oui, pour l'ACEUM, je ne pense pas que l'ACEUM va disparaître. Mais, par exemple, il y a des conséquences à court terme. Celles-là, on n'arrive pas à les régler, notamment les tarifs sur plein de produits.
C'est l'incertitude. L'incertitude tue l'entrepreneuriat. À la grandeur du Canada, les investissements, on est sur le hold parce qu'on ne sait pas trop de quoi seront faits les prochaines années. Puis je pense que Jean Charest avait dit une taxe... je pense qu'il avait appelé ça une taxe fantôme où il avait trouvé un autre nom là, pour la twist. Mais j'avais trouvé ça franchement intéressant d'avoir l'ancien premier ministre du Québec à Tout le monde en parle pour nous expliquer tout le contexte de l'ACEUM puis l'attitude de Mark Carney, puis de dire que même si on pense qu'un jour on pourrait se passer des Américains, ça n'arrivera jamais. On dépend à peu près à 80% des Américains, puis les entreprises canadiennes ont besoin des entreprises américaines. Puis l'inverse est aussi vrai, mais un plus faible pourcentage.
C'est vrai aussi, puis c'est vrai beaucoup en service, hein, parce que tu sais, on va se le dire, là, je regarde le nuagique, regarde par exemple tout ce qui est informatique. Tu sais, sans les Américains en informatique, pas fort pour le produit canadien. Tu sais. Donc, je pense que tout ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler constamment. On est en ce moment dans une période où les États-Unis sont en train de redéfinir ce qu'ils veulent être par rapport à leurs alliés, et ça va durer aussi longtemps que le président américain sera là. Est-ce que ça va se continuer après ou pas? On ne sait pas. Avant Donald Trump, qui aurait deviné que ce serait ça aussi. Il bouge très, très rapidement de ce côté-là. On a créé des structures qui sont extrêmement solides. L'accord de libre-échange est bon pour ça. Alors, je pense qu'il faut rassurer tout le monde. En même temps, il faut aider les entrepreneurs, il faut aider les entreprises, puis il faut aider les entreprises d'ici. On doit arrêter d'avoir l'espèce d'illusion de toujours aider les entreprises étrangères pour venir ici, mais jamais aider les entreprises d'ici pour rester ouvertes. Et ça, là-dessus, les PME, c'est important. C'est le cœur du Québec. C'est le cœur de notre économie. Puis ça, j'espère que les partis à la prochaine élection, ils vont se préoccuper de ces gens-là. Arrêtez de vous chicaner à savoir qui aurait dû baisser les impôts. Là. Soyez heureux que les impôts sont baissés pour les PME, puis continuez à mettre en place des choses qui sont structurantes pour ces gens-là. Les jobs au Québec, là, c'est des jobs de PME, puis ces PME-là ont besoin des États-Unis et des gouvernements pour traverser des crises.
Est-ce que Mark Carney doit continuer à avoir cette attitude-là à l'égard des États-Unis, à l'égard de Donald Trump? C'est-à-dire, on sait qu'il existe Donald Trump, mais là, on le laisse aller pour l'instant.
C'est le moment dans les derniers mois où est-ce qu'on a le moins entendu parler de Donald Trump du Canada. Et vous savez quoi? J'haïs pas ça. Alors, si ça fonctionne comme ça, allons-y pour ça. J'ai pas entendu de 51e état récemment. J'ai pas entendu d'attaque récente. Il faut être capable de trouver justement l'équilibre avec lui. Puis en même temps, je pense que le premier ministre a besoin de se tenir debout. Alors, j'aime bien l'attitude actuelle, mais je reviens sur une chose. Mark Carney, pour l'instant, n'a obtenu aucun résultat. Est-ce que le fait de ne pas avoir de résultats, c'est l'objectif? Ben, qu'ils nous le disent. Moi, je déteste quand les politiciens ne disent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et dans le cas de Mark Carney, à ce moment-ci, ça commence à me boguer de ne pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Il y a beaucoup de monde qui l'interprète. J'écoutais Jean Charest, tout le monde en parle. J'adore M. Charest. Et, tu sais, j'ai eu l'occasion de travailler dans son gouvernement. C'est un homme brillant. Mais ce n'est pas à lui seulement de nous expliquer. C'est aussi au premier ministre d'expliquer aux Canadiens ce qu'il est en train de faire. Et là-dessus, je trouve que Mark Carney ne parle pas assez souvent à son monde. J'espère l'entendre plus dans les prochaines semaines.
Et qu'est-ce qui explique sa popularité actuellement?
Le profil.
Son immobilisme.
C'est que le profil est juste parfait. Le profil est parfait et de l'autre côté, on a un politicien qui est très politique, qui est Pierre Poilievre, mais qui est mal aimé. T'sais, en ce moment, c'est rassurant pour tout le monde d'avoir un ancien banquier d'affaires qui est fort sur les marchés internationaux, que tout le monde connaît au niveau international et que ses vis-à-vis partout dans le monde respectent. Parce que ça, on ne peut pas le nier. Mark Carney est respecté par le président français, par le premier ministre britannique, par le président chinois. Il y a le respect des gens internationaux parce que ça fait longtemps qu'il est dans ces réseaux-là. Et d'avoir ce profil-là comme premier ministre l'aide à être très fort sur la vague. Une chose, par exemple, c'est que les Canadiens, quand ils voient leur prix monter, quand ils voient l'essence monter, quand ils voient leur pouvoir d'achat diminuer, ben, à un moment donné, ils vont vouloir des résultats. Et Mark Carney, c'est son grand défi. C'est le défi maintenant, c'est le défi du prochain budget pour lui. C'est de dire, comment je suis capable de faire pour garder le pouvoir d'achat de mes concitoyens, puis comment je fais pour que mes concitoyens souffrent le moins possible des changements économiques. Parce que c'est ça qui va nous faire bouger au niveau de l'acceptation ou pas, ou de l'approbation d'un gouvernement. C'est à quel point le citoyen souffre. Tant qu'on s'occupe du citoyen, honnêtement, il restera populaire.
Victor Henriquez, je vais te laisser aller écouter la game de hockey ce soir. Ta prédiction pour le match, ça va être quoi?
J'ai le goût d'être positif, mais j'y arrive pas. Moi, je pense qu'on l'a échappé la série. À 2-0 Canadien, il ne fallait pas échapper ce match-là. Le match 4 nous a fait mal. Alors, malheureusement, je vais refaire ma prédiction. Moi, j'avais dit Canadien en 6. Je pense que ça va être Lightning en 6. Mais dis quoi? Tant mieux si je me trompe.
Moi, je fonce dans le mur. Canadien en 7, ça se termine dimanche pour le Lightning de Tampa Bay. Puis le Canadien va continuer son chemin. Et ce soir, victoire du Canadien, 3-1. Un but dans un filet désert contre le Lightning de Tampa Bay.
Que les dieux du hockey t'entendent, Yannick.
Qui vivra, verra. Victor Henriquez, c'est toujours un plaisir. On se reparle dans les prochains jours.
À bientôt.
Bye-bye.
Marceau, le soir. Boulevard 102.1 veut savoir.
Votre plume sera-t-elle à la hauteur? Cette semaine, l'équipe de Gravel dans le retour en collaboration avec Tyzone vous lance un défi un peu spécial. Celui d'écrire des proverbes au blvd.fm. Soyez créatifs, inspirés et surtout restez à l'affût pour savoir à quel animateur vous devrez adresser votre message. Chaque jour, vous pourriez gagner une carte cadeau de 50 $ chez Tyzone pour craquer les biscuits de fortune et en bonus, courez la chance de gagner un an de Général Tao.
À la recherche d'un nouveau nid, pensez au condo locatif Le Charlie près de la rivière Saint-Charles. Comprend l'eau chaude et Internet ainsi que l'accès au gym, au lounge et à la terrasse. Visitez lecharlie.ca.
Ferblantier, apprenti ou compagnon, on vous attend. Isolation Beauport vous offre un poste temps plein deux jours. Installez des systèmes de ventilation résidentielle pour une entreprise solide depuis près de 50 ans. Envoyez votre CV au service@isolationbeauport.com.
Saviez-vous qu'un nombre record de clients de Laurier Mazda change fois après fois pour le même modèle? C'est même avec tristesse qu'ils viennent porter leur véhicule à la fin de la location. De la même façon qu'un grand classique nous tire les larmes, Laurier Mazda est LE classique de l'automobile. Ce mois-ci, vivez une vive émotion en mettant la main sur un CX-5 2026 modèle GX, location à partir de